Volume présente Bonaparte et Joséphine. Le roman de Napoléon. De Octave Aubry. Lu par Philippe Collier. Première partie. Bonaventure. Il se tenait près de la porte, petit, chétif, flottant dans son uniforme usé où seule une ganse de soie marquait le grade. Il cachait sous le bras son vieux chapeau qu'il n'avait pas changé depuis le siège de Toulon. Ses cheveux noirs, en oreilles de chien, étaient rattachés en queue sur la nuque. Sa peau jaune collait aux os de sa face. Au bout du grand salon radieux de lumière et de couleurs, perdu dans cette foule qui tournoyait bruyamment à ses côtés sans le connaître, il se redressait pour ne point paraître humble. Mais n'était pas humble le pli serré de sa bouche, l'insistance de son regard gris qui clignait un peu et la sorte d'impatience qui par moments lui faisait tordre ses mains patriciennes. Qu'il fût là, lui, si étranger d'âme à de telles fêtes, si désabusé malgré sa jeunesse, si prêt de renoncer à tout. Une invitation négligente, jetée par Barras, le vague espoir d'intéresser à sa mince personne les puissances de la République, et brossant avec soin son habit bleu où blanchissait le fil des coutures, il avait quitté la chambre d'hôtel qui suait la crasse et la misère. Il avait marché avec précaution jusqu'aux Champs-Élysées, choisissant les pavés pour ne pas salir ses bottes. Maintenant, il était ici, le cœur âcre et lourd, prêt 10 fois à s'esquiver et demeurant encore, retenu par les derniers sursauts d'une ambition trop forte, trop profonde, surtout trop instinctive pour se résigner à mourir. Sous les lustres chargés de cire brillante, entre 2 haies de fauteuils où des femmes étaient assises, des couples dansaient, au son de violons cachés dans le boudoir voisin. Pour la plupart, c'étaient de jeunes hommes, imberbes, à perruques blondes, muscadins, incroyables, vêtus de culottes amples, de gilets à grands revers, de fracs, de nuances tendres, jaunes, roses, violets, rayés, à longues basques, à larges boutons de nacre, d'argent ou d'or, à collets de velours vert ou noir. Leurs grosses cravates de batiste faisaient goître sous le menton. Ils portaient des lorgnons énormes. Dédaigneux des danses à cérémonie de naguère, ils pressaient contre eux dans l'étreinte rythmée de la valse, des merveilleuses, en tunique de gaze fendue sur le côté jusqu'aux hanches et dont la taille haute laissait les seins à découvert. Presque nus, plus que nus, sous les fins tissus qui voilaient leur beauté secrète, elles étaient chaussées de sandales et l'on voyait briller des bracelets à leurs chevilles et des bagues à leurs orteils. Ils dansaient sur des musiques gaies et légères. Ils avaient eu si peur, tous ces gens, dans les jours sanglants où nul n'était sûr en se levant de ne pas coucher le soir à la conciergerie pour porter le lendemain sa tête sur la place de la Révolution. Ils avaient traversé des heures si affreuses qu'ils ne pensaient plus qu'à jouir de cette vie retrouvée par miracle depuis le 9 Thermidor. Ils en jouissaient avec frénésie, avec excès, comme si par leur rire, leurs propos désossés et canailles, leurs extravagances d'habits, leurs gaspillages, leurs mœurs effrontées, leurs amours corrompus, ils voulaient insulter à la mort qui avait été pendant 2 ans le vrai dictateur de la France. Le lieu était plaisant, au reste, et délicat. Cette chaumière de l'allée des veuves, d'un extérieur rustique, cachait le luxe d'un palais galant, orné pour servir de temple à la déesse du jour, celle qui, ci-devant marquise de Fontenay, maintenant citoyenne Tallien, avait fait reculer la terreur et jeter Robespierre au billot. Les danses suspendues un instant, elle parut, la belle, l'incomparable Notre-Dame de Thermidor, au bras du général Barras, pour faire le tour des salons et saluer ses hôtes, en reine incontestée de la République. Elle s'arrêtait, souriait, donnait à baiser ses mains, laissait tomber quelques paroles aimables, puis repartait après un signe gracieux de la tête, laissant dans son sillage le bruissement d'une admiration frénétique. Sa robe de mousseline, très ample, drapée sur sa poitrine généreuse, tombait à longs plis autour d'elle comme le péplum d'une romaine. Point de bijoux, qu'au poignet un serpent niellé dont la tête était taillée dans une émeraude énorme. Ses bras nus, d'un beau modelé, retenaient par derrière une écharpe de cachemire pourpre.